Sous l'Empire, nous venons de l'entendre, ça n'est fallu vraiment de peu pour que la Méditerranée devint un lac français, même si cela a été utilisé par des patriotes napolitains ou salernitains comme Matteo Gaddi. Simplement, en 1815, ce sont les Anglais qui disent la loi en Méditerranée comme ailleurs. Et dans ce contexte, la question que nous devons nous poser est une question très simple. En quoi la Méditerranée, comme espace maritime, comme espace de continuité, mais aussi de contiguïté, comme univers de référence lié aux riverains, devient-elle une idée, une référence centrale dans le discours et la vie politique des Italiens à l'époque du Risorgimento, alors que la péninsule est encore divisée en plusieurs États? La question est très simple, schématique, simplement la réponse nécessite un préalable. S'interroger sur le processus de domestication italienne de la Méditerranée suppose que l'on accepte cette différenciation, elle aussi simple et efficace, entre espace et territoire, telle que l'a posé le grand historien de la géographie Daniel Nordman. L'espace est un ensemble ouvert, réticulaire, de flux, de présence, d'influence, alors que le territoire est une aire délimitée de souveraineté et d'appropriation militaro-politique. Dans ce cadre, mon hypothèse est que la Méditerranée est déjà l'espace des Italiens à l'époque du Risorgimento, avant de devenir un impossible territoire d'expansion de l'Italie unifiée, rêvant à une politique de puissance dans la Méditerranée de la fin du XIXe siècle. Dans les deux cas, les Français sont bien présents, rivaux, concurrents, mais aussi, et heureusement pour notre colloque, finalement, de temps à autre, solidaires des Italiens. Alors, commençons par parcourir la Méditerranée comme espace des Italiens du Risorgimento, en envisageant les jalons d'un horizon culturel d'attente, d'un horizon culturel méditerranéen. Pour les élites péninsulaires des débuts du XIXe siècle, certes, l'idée d'une résurrection, et nous venons de le voir du reste avec le jeune Matteo Gaddi, je ne sais pas s'il était jeune, mais le salernitain et napolitain Gaddi. Pour les élites péninsulaires des débuts du XXe siècle, donc, l'idée d'une résurrection de la péninsule liée à une renaissance méditerranéenne est bien une idée présente. Le constat intéressant, simplement, c'est que se développe face à la pensée d'un humanisme méditerranéen dont les deux centres seraient Athènes et Rome, idée défendue par un Léopard, par exemple, se développe l'idée d'un nouvel humanisme méditerranéen qui serait d'un humanisme méditerranéen orientaliste. Chez un auteur septentrional comme Ludovico di Brême, Negatinale di Brême, la Méditerranée n'est un trope de la modernité italienne que si elle passe par l'Orient. Et il me semble que le détour est significatif. Pour le reste, force est de constater l'absence, ou la quasi-absence, depuis Paris, y pourrait-on dire, dans les années 1820, d'une alchimie esthétique et littéraire de l'identité méditerranéenne de la péninsule. Alors, la Méditerranée du Risorgimento, dès lors, devient le fruit d'élaborations autres qu'artistiques. Pourtant, c'est bien de cette époque que date l'inventaire d'une réelle présence italienne méditerranéenne. Le premier argument est lié à un vieil argument qui est celui de la démographie et de son image. On a pu en effet estimer à environ 600 000 les Italiens, ou pour être plus précis, les italophones, dans le bassin méditerranéen au milieu du siècle, dont une majorité est située dans l'Empire ottoman. Dans la vice-royauté d'Égypte, un propagandiste de l'italianité, Balboni, inventera même en 1906 une catégorie, la catégorie des vieux Égyptiens, pour caractériser ces Italiens présents dans le Khediva, bien avant l'afflux des Italiens des années 1880. Alors, de cette présence italienne dans l'Empire ottoman, on retient aussi et surtout, je dois dire, la pérégrination de gens illustres, de personnages célèbres comme Giuseppe Donizetti, je dirais l'autre Donizetti, le frère, que l'on appelle, qui est appelé Donizetti Pacha, puisqu'il est, vous le rappelez sans doute, auprès du sultan depuis la fin des années 1820, et qui sera l'inventeur de l'hymne ottoman dès cette époque. Cet espace méditerranéen des Italiens est aussi un espace diplomatique et linguistique complexe. L'un des premiers indicateurs est la présence des consuls nés dans la péninsule, italophones de naissance, qui sont au service d'États préunitaires, italiens certes, mais qui sont aussi au service d'autres États européens. À une époque, vous vous le rappelez peut-être, l'usage est un usage multinational du personnel consulaire, bien que l'on commence à professionnaliser le métier consulaire. Le Piémontais Drovetti, par exemple, est consul de France à Alexandrie, pour le fait qu'il est déjà un grand collectionneur d'antiquités égyptiennes. L'usage de l'italien comme première langue diplomatique de l'Empire ottoman est là aussi assez connu pour que je n'y insiste pas. Rappelons-nous simplement ce détail anecdotique que le firmant qui cède les marbres du Parthénon à Lord Elgin est dans sa première version écrit par un drogman italophone. Est en italien, il faudra que les Anglais le traduisent de l'italien. Tout cela favorise donc le développement de relations diplomatiques et commerciales bilatérales entre les États de la péninsule et l'Orient. Ce dont témoigne, par exemple, l'activisme du plus nordique des royaumes d'Italie, le royaume de Piémont-Sardaigne, qui signe dès 1816 un traité avec les barbaresques d'Alger et qui obtient, en 1820, un régime très très avantageux de capitulation dans l'Empire ottoman. Entre parenthèses, cela expliquera Pourquoi de nombreux milieux négociants commerciaux ont appuyé la décision autoritaire mais très intelligente du comte de Cavour d'entrer en guerre en Crimée en 1854. Alors, si les traces d'un espace méditerranéen italien sont indéniables, d'une influence, d'une présence sont indéniables, il reste tout de même à voir pour notre propos ce qu'elles deviennent dans la culture politique du Risorgimento. Évoqué par les géographes, notamment ceux de la grande école de géographie de Bologne au XIXe siècle, le thème de la centralité géographique de la péninsule prend un sens très clair dans les discours patriotiques. C'est le cas notamment avec Gioberti, l'apôtre du néo-guelfisme, le grand patriote piémontais. Chez lui, le primat de l'Italie est d'abord lié à la supériorité de la romanité, c'est entendu, c'est la romanité de la Mare Nostrum, mais c'est aussi la romanité pontificale. Cela dit, ce primat est aussi indissociable de la vocation méditerranéenne de l'Italie. Il écrit, dans son grand ouvrage, le primate, que la Méditerranée est, je cite, « la piazza dei popoli civili », faisant d'ailleurs écho, cela mérite d'être souligné, au propos du système de la Méditerranée, de Chevalier, d'un article célèbre du Globe de 1832. Mais comme toujours, chez Gioberti, se pose à un moment ou à un autre le problème de la France et des Français, et vous allez voir qu'il est très très vite expédié. Je cite, « L'Italia è la più centrale delle province dell'Europa. I francesi sogliono assegnare questo privilegio alla loro patria. Il vero sì è che questa partecipa alla centralità civile di Europa solo per via della Provenza. » Je traduis et complète la citation. Ça me fait plaisir parce que je suis provençal, pas le seul dans cette salle, mais enfin qui mérite tout de même d'être commenté. Bien que située sur son bord méridional, dit-il, l'Italie est toutefois, politiquement parlant, la plus centrale des provinces d'Europe. Les Français ont l'habitude d'assigner ce privilège à leur patrie, mais la vérité est que la France ne participe à la centralité de la civilisation de l'Europe que par la Provence, parce que la Méditerranée est le vrai milieu et, pour ainsi dire, la place des peuples civilisés. La leçon est très claire. Pour être au cœur de l'Europe, il faut être un pays méditerranéen. À l'évidence, avec Gioberti, la méditerranéisation passe par la confrontation avec la France. Pourtant, cette bipolarisation ne doit nullement nous faire oublier que nous sommes dans l'Europe romantique, dans la Méditerranée romantique, à la veille de 1848, dans un contexte de première réelle européanisation géopolitique et multilatérale de la Méditerranée contemporaine, et plus seulement dans un système bilatéral. Véritable européanisation qui fait, par exemple, que le Royaume-Uni veut acquérir les îles de Pantelleria ou que les Russes sont intéressés par l'achat de celles de Lampedusa qui seront, vous le savez, achetées plus tard par les Bourbons de Naples et deviendront ainsi, après 1861, italiennes. Mais au-delà de ces enjeux, il faut donner un autre sens à cette affirmation de la Méditerranée Piazza dei Popoli Scimini. Un sens cette fois qui insiste sur les solidarités politiques méditerranéennes et plus seulement sur la confrontation. D'abord en rappelant que les rivages et les archipels de la Méditerranée sont des étapes pour les proscrits du Risorgimento. Corfou, Malte sont des laboratoires, des bases arrières pour les Fabrizi, Lemmi, Fratelli Bandiera. Quant à Pisacane ou au Mazinien Citati, ils trouvent refuge à Alger, quand leurs camarades de conspiration, Cornelius Garibaldi d'ailleurs, se partagent entre Marseille, Constantinople ou même plus loin encore de Méditerranée, Taganrog, en Crimée. Pour ne pas parler des îles et des côtes de la régence de Tunis, comme Kerkena et Djerba, qui voient arriver en masse et les accueillent des patriotes italiens, puis des Siciliens, qui plus tard refuseront la conscription en 1860, inaugurant ainsi, sur de frêles embarcations et en masse, un flux qui allait alors du nord au sud. Ces trajectoires de l'exil doivent être restituées dans un mouvement plus vaste de pérégrination politique et armée méditerranéenne, qui a fait de la Méditerranée une ère de déploiement de ce que l'on peut appeler, après la Révolution, l'amitié politique internationale. Une catégorie née des héritages lexicaux et idéologiques de la Révolution française jusqu'au printemps des peuples de 1948. Les premières occasions se font jour dans la péninsule ibérique, où l'Espagne et le Portugal des révolutions libérales accueillent des volontaires armés venus combattre la contre-révolution avec des Italiens comme Pecchio, Pepe ou Durando. Ce qui expliquera d'ailleurs un peu plus tard les déclarations sinon incompréhensibles d'un Cavour qui, en 1860, se félicite du soutien d'une partie des Espagnols éclairés. Une façon de dire que tous les Espagnols ne sont pas un peuple qui se ligue contre l'unité italienne qu'il mène lui-même. Voilà sa déclaration en italien cette fois de la part de Cavour. La libertà metterà salde radici sulle sponde occidentali del Mediterraneo e le due grandi penisole figlie entrambi della gran madre latina cammineranno nelle vie della civiltà adonta del comune nemico, il clericalismo retrivo. Mais cette rhétorique de la solidarité méditerranéenne prend encore plus de sens au cours des années 1820 et des années 1830 autour de la Grèce. On a étudié le philhellénisme fondateur des Suisses, des Bavarois, des Anglais, des Français, mais le philhellénisme intellectuel et armé des Italiens fut aussi un mouvement très important. Il eut ses 100 grades, mais il eut aussi ses héros célébrés, comme le piémontais Santore di Santa Rosa, le Byron italien piémontais. De ces combats, alors, je retiendrai, pour le propos de notre colloque, qui est d'examiner le poids des cultures en politique, trois conclusions. D'abord, l'idée que le volontariat philhellène fonctionne sur un substrat culturel, né de l'affirmation d'une communauté de civilisation. C'est après tout bien des années 1820, marquées à la fin de la décennie par la naissance ici de l'Istituto di Corrispondenza, que date l'usage systématique d'associer, mais toujours en les hiérarchisant, les civilisations grecques et romaines. Hors de cette communauté inégale de civilisation, naît l'affirmation d'une amitié politique qui se développe avec le fameux parallèle des deux Risorgimenti. Pour les Italiens, l'épanastasis, la révolution grecque des années 20, est perçue comme le seul Risorgimento comparable à ce que peut être le Risorgimento italien. Pourquoi ? Eh bien, si Risorgimento signifie renaissance, seul le peuple grec et le peuple italien peuvent prétendre connaître un tel processus, parce qu'ils seraient les seuls peuples héritiers des deux grandes civilisations de l'Occident. Pour renaître, il faut avoir été, et seuls les Grecs et les Italiens disent l'avoir été. On trouve cette idée déclinée de toutes les façons dans l'anthologie de Florence, durant sa période philhellène. On la retrouvera à la fin du Risorgimento, exprimée par Garibaldi, lorsqu'il envoie ses camicie rosse en Crète, et on la retrouvera plus tard, lorsque le propre fils de Garibaldi part avec ses volontaires combattre dans la guerre gréco-turque de 1897. Mais du combat né d'un Risorgimento commun émanait également dans les années 30 l'idée que la lutte pour les Grecs était aussi une façon d'accomplir en Orient la révolution des Français tout en répétant le combat d'émancipation future qui aurait lieu en terre italienne. Enfin, la solidarité méditerranéenne ne signifie pas forcément symétrie. Dans une amitié, même symbolique, même politique, il y a souvent un ami aîné et un ami cadet. À l'issue du Risorgimento, justement, s'affirmera le primat du mouvement italien, seul des deux, comparé aux Grecs, à avoir pu aboutir à un État-nation administré par des Italiens, alors que la monarchie hellénique indépendante allait passer d'une dynastie bavaroise à une dynastie danoise, dans l'idée que seul le Risorgimento italien avait pu représenter le grand rêve de la Révolution française. Ce qui aura comme conséquence le fait que, dans une grande partie de la Méditerranée, y compris de la Méditerranée orientale, c'est l'Italie qui devient désormais la référence politique, culturelle et idéologique, et non plus la France héritière de la grande nation. Je conclurai en rappelant que, certes, l'achèvement de l'unité territoriale, avec la grande épopée méditerranéenne de Sicile, le choix de Rome capitale, marque pour le nouvel État libéral l'aspiration à une politique de puissance et de territorialisation méditerranéenne dont on verra les effets à la période coloniale. Cette politique sera résumée rétrospectivement et très brillamment par Pietro Silva, l'un des meilleurs connaisseurs de la Méditerranée, qui déclare en 1914, dans une conférence qui sera d'ailleurs opportunément republiée par les fascistes en 1936, la chose suivante. Si pensi, nel 1869 il canale di Suez è compiuto. Nel 1870 l'Italia risorta ritrova in Roma la sua capitale gloriosa. Sono coincidenze di date che a lume nella storia acquistano un profondo significato. En 1869 le canal de Suez est achevé. En 1870 l'Italie ressuscitée retrouve en Rome sa glorieuse capitale. Ce sont, dit Silva, des coïncidences qui, à la lumière de l'histoire, prennent un sens profond. Et quel sens pour Silva? Il est très simple, il sera du reste développé durant le Ventennio, celui qu'il existe un impérialisme et un rayonnement méditerranéen qui ne sont rien d'autre que la juste prolongation de l'unité italienne. Cependant, au nom de cette relecture par des quasi-contemporains de l'histoire du XIXe siècle, il ne faudrait pas oublier que l'Italie du Risorgimento se fait aussi au nom d'une solidarité méditerranéenne justement opposée aux empires, se deviennent comme celui de Constantinople. L'insertion de la Méditerranée dans le canon risorgimental national italien rappelle la valeur d'un axiome qui devrait et qui est bien connu des historiens. Après tout, dans l'Europe du XIXe siècle, il n'y a pas de lutte plus internationale que la lutte nationale. Il n'y a pas de cause plus internationale que la cause de défense des nationalités. Et en Méditerranée, c'est l'Italie du Risorgimento qui en aura le primat pendant une grande partie du XIXe siècle, sans pour autant réussir à devenir une grande puissance méditerranéenne après les années 1870. Notre objectif dans ce colloque est aussi, et M. l'ambassadeur l'a rappelé en introduction, de nous interroger sur l'héritage positif au XXe siècle, de nos jours, de ce que l'on a défini comme l'option méditerranéenne de l'Italie. S'interroger également sur sa possibilité, dans l'euro-méditerranée d'après 1994, d'assumer pour l'Italie cette option avec les voisins français et les partenaires des autres rives. Il serait dès lors vraiment dommage d'oublier la saison méditerranéenne et internationale de la naissance d'un État-nation comme l'Italie en pleine Méditerranée. Je vous remercie de votre attention.